Conan Doyle, La chambre scellée. Un solliciteur qui, par tempérament et par goût, a besoin d'activité physique, ne peut pas, quand ses affaires l'ont tenu dans un bureau de 10 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, se dispenser de faire le soir un peu d'exercice. J'avais donc l'habitude de m'offrir de longues promenades nocturnes au cours desquelles je cherchais les hauteurs de Hampstead et de Highgate pour purifier mes bronches des miasmes d'Albertslein. Et ce fut au cours d'une de ces flâneries sans but que je rencontrai pour la première fois Félix Stanford, à qui j'allais devoir la plus extraordinaire aventure de ma vie. Un soir, vers la fin d'avril ou le commencement de mai 1894, je gagnais l'extrême nord de Londres, descendais une de ces belles avenues bordées de hautes villas en briques que la grande cité pousse toujours plus avant dans la campagne. Il faisait une claire nuit de printemps, la lune brillait dans un ciel sans nuages, et, marchant sans hâte, regardant, contemplant, j'étais déjà laissé derrière moi plusieurs milles quand mon attention s'arrêta sur l'une des maisons devant lesquelles je passais. C'était une très vaste bâtisse, complètement isolée, assez en retrait sur la route. Moderne, d'aspect un peu moins pourtant que ses voisines, toute peinte à neuf de couleurs vives et dures, elle rompait l'alignement symétrique par la trouée de sa pelouse au bout de laquelle, entre des lauriers, elle se dessinait confusément, large, sombre et triste. Asile campagnard de quelques riches marchands, elle datait sans doute du temps où la plus prochaine rue était à distance de 1000. La pieuvre londonienne l'avait graduellement attrapée, puis enlacée de ses tentacules de briques rouges. Cela finirait par l'absorption totale, qui permettrait aux constructeurs à bon marché d'élever une douzaine de villas à 80 livres par an sur le jardin en bordure. Et, tandis que ceci me passait vaguement par la tête, un incident survint qui changea tout à fait le cours de mes pensées. Un cab à 4 roues, cette honte de Londres, arrivait, grinçant et cahoté, tandis qu'approchait en sens contraire la lueur jaune d'une lanterne de cycliste. Encore qu'ils fussent seuls objets en mouvement sur cette toute la longue route éclairée par la lune, ils allèrent se jeter l'un sur l'autre avec cette précision maligne qui détermine la rencontre de deux paquebots sur l'immense étendue de l'Atlantique. Ce fut la faute du cycliste. Il voulut traverser devant le cab, prit mal ses distances, heurta l'épaule du cheval et tomba. Il se releva en pestant. Le cabman jura, puis s'avisant qu'il n'avait pas encore noté son numéro, il fouetta sa bête et la lourde voiture se remit en branle. Le cycliste saisit les poignets de sa machine, resté à terre, mais tout à coup, il s'assit et j'entendis une plainte. « Oh Seigneur !»« Pas de mal ?» demandai-je. « Ma cheville, répondit-il, oh, rien qu'une entorse, j'espère. Mais c'est bien douloureux. Donnez-moi la main, voulez-vous ?» Il était dans le cercle de la lanterne. Je remarquai, en l'aidant à se lever, que c'était un jeune homme d'aspect distingué, avec une légère moustache noire, de grands yeux bruns inquiets et timides, et des joues creuses, portant les signes d'une faible santé. Il se mit debout, mais sur un seul pied, et le moindre mouvement de l'autre lui arrachait un cri de souffrance. Impossible de le poser à terre. « Où habitez-vous ? Là ?» Il désignait de la tête la grande maison noire dans le jardin. « Je coupais vers la grille quand ce maudit cab me tomba dessus. Pouvez-vous me conduire à ma porte ?» Je le fis sans peine. Je rangeai sa bicyclette à l'intérieur de la grille et je soutins le long de l'allée jusqu'en bas du perron donnant accès dans la vestibule. Il n'y avait de la lumière nulle part. L'endroit était morne, comme si personne ne l'avait jamais habité. « C'est bien. Merci beaucoup, » dit-il en fouillant avec sa clé dans la serrure. « Oh, permettez-moi de vous laisser que chez vous. » Il protesta avec plus de vivacité que d'énergie. Puis, se rendant compte qu'il ne pouvait se passer de mon aide, il ouvrit la porte. Le vestibule était un noir d'encre. Il fit quelques pas, tant bien que mal, son bras toujours appuyé sur ma main. « La porte à droite, » dit-il en cherchant dans l'ombre. J'ouvris la porte. Au même instant, il allait frotter une allumette. Une lampe se trouvait sur la table. Nous l'allumâmes tous les deux. « Ça va. Maintenant, vous pouvez me laisser. Bonsoir. » Là-dessus, il s'assit dans un fauteuil et perdit connaissance. Ma situation devenait bizarre. À voir la pâleur du pauvre garçon, je n'aurais pas affirmé qu'il n'eût cessé de vivre. Et bientôt, ses lèvres frémirent, sa poitrine se souleva, mais ses yeux ne montraient encore que deux fentes blanches et un visage sont restés livides. Inquiet de me sentir responsable, je tirai le cordon de sonnette. Un carillon furieux se fit entendre à distance, mais il ne vint personne. L'appel du timbre n'éveilla ni un mouvement, ni un murmure. J'attendis et sonnai de nouveau, sans plus de résultat. Il fallait pourtant qu'il y eût quelqu'un dans la maison. Ce jeune gentleman ne pouvait hanter et habiter seul cette immense demeure. Je devais prévenir les siens, et s'il ne répondait pas à la sonnette, aller moi-même les relancer. Je saisis la lampe et me précipitai au dehors. Ce que je vis me stupéfia. Le hall était vide, l'escalier nu et jaune de poussière. Trois portes s'ouvraient sur des chambres spacieuses, et ces chambres n'avaient ni tapis ni tenture. Mais des toiles grises pendaient aux galeries des fenêtres, et sur les murs couraient des rosaces de lichen. Mes pas sonnèrent bruyamment dans le silence des pièces. Puis, à l'aventure, j'enfilai le corridor. Je pensais qu'au moins on viendrait à la cuisine, et je finirais par découvrir un gardien dans quelque coin d'appartement. Mais partout régnait la même solitude. Désespérant de trouver du secours, je pris un autre couloir au bout duquel m'attendait une nouvelle surprise. J'avais en face de moi une grande porte brune, dont un scellé de cire rouge, large comme une pièce de 5 shillings, défendait la serrure. Couvert de poussière et décoloré, le scellé devait être là depuis longtemps. Je le considérais avec étonnement, me demandant ce que pouvait cacher cette porte, quand je m'entendis rappeler dans le vestibule. Je retournai sur mes pas et je vis mon jeune homme assis à la même place. Pourquoi, me dit-il, avez-vous emporté la lampe? Mais je cherchais de l'aide. Oh, vous pouvez chercher. J'occupe seul la maison. Bon, bien incommode en cas de maladie. Me m'évanouir ainsi, c'est stupide. Oh, je tiens de ma mère une extrême faiblesse du cœur, et le moindre chagrin, la moindre émotion me terrasse. Cela m'emportera un jour ou l'autre, comme ma mère. Vous ne seriez pas médecin, par hasard? Non, je suis monsieur Frank Hedler, sollicitor. Et moi, monsieur Félix Stanford. Drôle de rencontrer, qu'on ne rencontre que l'un autre. Mon ami, monsieur Perceval, prétend justement que nous allons avoir besoin d'un homme d'affaires. Charmé, je vous assure. La chose dépend de mon ami, mais n'ai-je pas compris que vous aviez exploré tout le rez-de-chaussée avec la lampe? Oui. Vous dites tout, insista mon interlocuteur, appuyant sur tout et m'observant d'un œil fixe. Il me semble, j'espérais rencontrer quelqu'un. Et, continua-t-il sans détourner le regard, vous êtes entré dans toutes les chambres? Dans toutes celles où je pouvais entrer, oui. Ce qui signifie que vous avez remarqué, fit-il avec un haussement d'épaule, en homme qui prend son parti d'une contrariété. Remarquez quoi? La porte scellée. Oui, en effet. Vous n'avez pas été curieux de voir ce qu'il y a derrière? Cela m'a paru insolite. Pensez-vous, vous pourriez vivre seul dans cette maison des années entières, harcelé sans trêve par le désir de voir ce qu'il y a derrière cette porte, et malgré tout irrésistant? Quoi, m'écriai-je, vous ne le sauriez pas vous-même? Pas plus que vous. Pourquoi ne pas regarder? Je ne le dois pas. Il parlait avec contrainte. Évidemment, je venais d'aborder à l'étourdi un sujet délicat. Oh, je ne me crois pas plus curieux qu'un autre. Mais la situation avait certes de quoi provoquer l'intérêt. Cependant, rien ne me retenait plus dans la maison à présent que mon inconnu avait repris connaissance. Je me levai pour partir. « Vous êtes pressé ?» me demanda-t-il. « Non, non, je n'ai rien à faire. Alors vous me rendriez heureux si vous vouliez bien me tenir un instant en compagnie. Je mène ici une vie retirée, très recluse. Je doute qu'il y ait personne à Londres pour mener une vie pareille. Il m'arrive rarement d'avoir quelqu'un avec qui causer. J'inspectais d'un regard la petite pièce pauvrement meublée, avec un fauteuil-lit dans un angle. Puis je pensais à la grande maison nue, à la sinistre porte que scellait un cachet fané de cire rouge. Tout cela, par sa bizarrerie, me donnait l'envie d'en savoir davantage. Peut-être même en restant, y piaverai-je. Eh bien, je lui dis que je resterai avec plaisir. Vous trouverez les liqueurs et un siphon sur la table à côté. Excusez-moi de remplir si mal les devoirs de l'hospitalité, mais je n'ai pas la force de traverser la chambre. Il y a des cigares, là, dans cette boîte. Oh, je crois que j'en prendrai à moi-même. Ah si, vous êtes solliciteur, Miss Adler? Oui, au moins, je ne suis rien. Fils d'un millionnaire, je suis la créature du monde la plus démunie de ressources. On m'a élevé dans l'espoir d'une fortune. Je n'ai ni argent ni profession. Par surcroît, je reste avec cette grande maison sur les bras, sans aucun moyen de l'entretenir. Il est aussi absurde pour moi d'en faire mon domicile que pour un marchand des quatre saisons, d'attirer un pur sang à sa baladeuse. Mieux lui vaudrait un âne, et moi une chaumière. Et pourquoi ne pas vendre la maison? Mais on n'est pas le droit. Ben, la louer, du moins. Pas davantage. Voyant à mon air combien il m'intriguait, le jeune homme sourit. Je m'explique, dit-il, si toutefois cela ne vous ennuie pas. Au contraire, cela m'intéresse énormément. Après vos aimables attentions pour moi, je vous dois bien, il me semble, de satisfaire votre curiosité. Sachez d'abord que mon père était Stanislas Stanford, le banquier. Stanford, le banquier. Le nom me revint tout de suite. La fuite de Stanford, quelques années auparavant, avait fait scandale. « Je vois que vous vous rappelez, » continua le jeune homme. « Mon pauvre père quitta le pays à cause des nombreux amis dont il avait engagé les fonds dans une opération malheureuse. C'est un homme nerveux et impressionnable. La conscience de sa responsabilité lui fit perdre la tête. Il n'avait, aux yeux de la loi, commis aucune faute. Mais ce fut pour lui... simple question sentimentale. Il ne voulut même plus se trouver en face de sa famille. Et quand il partit pour l'étranger, où il devait mourir, il ne nous fit sûrement pas connaître le lieu de son refuge. « Ah, il est donc mort !» m'écriai-je. Sans avoir jamais la preuve de son décès, nous en eûmes la certitude par le fait que les valeurs sur lesquelles il avait spéculé s'étant relevées, rien ne justifiait désormais son refus de reparaître. Et, vivant, il n'aurait pas manqué de revenir. Il sera mort, je suppose, au cours des deux dernières années. Pourquoi les deux dernières? Parce qu'il y a 2 ans, nous eûmes de ces nouvelles. Il ne vous disait pas où il vivait. La lettre venait de Paris, mais n'indiquait aucune adresse. C'était à la mort de ma pauvre mère. Il m'écrivait pour me donner quelques instructions et quelques conseils. Et depuis, nous n'entendîmes plus jamais parler de lui. Mais a-t-il donné signe de vie auparavant? Oui! Et c'est là où commence le mystère de cette porte scellée qui vous a arrêté tout à l'heure. Veuillez, je vous prie, m'avancer ce pupitre. J'y garde les lettres de mon père. En dehors de M. Perceval, personne que vous ne les aura vues. Puis-je vous demander qui est M. Perceval? C'est un homme de confiance de mon père. Il resta l'ami et le conseiller de ma mère. Il reste mon guide et mon ami. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans Perceval. Lui seul connaît ses lettres. Voici la première. Elle arriva le jour même de la disparition de mon père, il y a 7 ans. Lisez-la vous-même. Je lus ce qui suit. Ma très chère femme, Sir William, m'ayant dit combien vous aviez le cœur faible, et le mal que pouvait vous causer la moindre émotion, je ne vous ai jamais parlé de mes affaires. Aujourd'hui, quoi qu'il doive arriver, je ne saurais plus vous cacher qu'elles ont pris une fâcheuse tournure. Ceci va m'obliger à vous quitter pour quelque temps, mais j'ai l'assurance de vous revoir très vite. Vous-même, comptez-y absolument. Notre séparation sera brève, ma chérie. Ne vous laissez donc pas abattre ni dépérir. C'est le vœu le plus ardent que je forme. J'ai une recommandation à vous adresser. Et par tout ce qui nous unit l'un à l'autre, Je vous adjure de vous y conformer aussi scrupuleusement que possible. Il y a, dans la chambre dont j'ai fait mon laboratoire photographique, certains objets que je désire n'être vus de personne. Et pour prévenir dans votre esprit tout équivoque, je vous affirme, ma chérie, que ce n'est rien dont j'ai à rougir. Néanmoins, je tiens à ce que ni vous, ni Félix n'entriez dans cette chambre. Elle est fermée à clé. Je vous supplie de voir bien, au reçu de cette lettre, à poser un scellé sur la serrure et ne plus y penser. Ne vendez ni ne louez la maison. Dans un ou l'autre cas, on découvrirait mon secret. Aussi longtemps que vous ou Félix habiterez la maison, je sais que vous respecterez ma volonté. Et quand Félix aura 21 ans, il pourra ouvrir la chambre, mais pas avant. Au revoir, la meilleure des femmes. Durant notre courte séparation, vous pourrez en toute occasion consulter M. Perceval. Il a mon entière confiance. Je me console d'avoir à vous laisser, même pour peu de temps, Félix et vous. Mais je n'ai pas le choix. Votre mari qui vous aime et vous aimera toujours. Stanislas Stanford, 4 juin 1887. En vérité, s'excusa le jeune homme, je vous inflige mes affaires là, de famille, et dans ce qu'elles ont de plus intime. Ne les considérez qu'au point de vue professionnel. Il y a des années que je voulais m'en ouvrir à quelqu'un. Votre confiance m'honore, répondis-je, et les faits m'intéressent au plus haut point. Mon père était connu pour sa sincérité presque maladive. Il affectait en toute chose une rigoureuse exactitude. Quand donc il exprimait l'espoir de revoir très vite ma mère, il disait strictement la vérité. De même, croyez-le, quand il certifiait qu'il n'y avait dans le cabinet noir rien qui pût lui faire honte. Et qu'est-ce que cela pouvait être? Ni ma mère ni moi, nous ne pûmes l'imaginer. Nous suivîmes ses prescriptions à la lettre et posâmes le scellé sur la porte. Il y est resté depuis. Ma mère, bien que condamnée par les médecins, survécut 5 ans à la disparition de mon père. Elle avait le cœur très malade. Au cours des premiers mois, elle reçut de mon père 2 autres lettres timbrées de Paris, mais, je le répète, ne donnaient pas d'adresse. Toutes deux étaient courtes et disaient la même chose. Elle le reverrait très vite et ne devrait pas se chagriner. Puis il y eut un silence qui dura jusqu'à sa mort. Et alors m'arriva une lettre si particulière que je ne puis vous la montrer. Mon père me demandait de ne jamais mal le juger. Il me donnait beaucoup de bons avis. Il ajoutait que le scellé de chambre avait maintenant moins d'importance que du vivant de ma mère, que cependant on pouvait encore, en le brisant, faire de la peine à autrui, et qu'en conséquence, il fallait mieux attendre jusqu'à ma 21e année. Ce délai devant aplanir bien des choses. En même temps, il me remettait la garde de la chambre scellée. Vous comprenez dès lors que, tout en étant très pauvre, je ne puisse ni louer ni vendre cette grande maison, mais vous pouvez l'hypothéquer. Mon père l'avait déjà fait. C'est une position singulière. Ma mère et moi, nous nous vîmes forcés, peu à peu, de vendre des meubles et de congédier nos domestiques. De sorte qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, Je vis tout seul dans cette pièce, mais je n'ai plus que 2 mois à attendre. Que voulez-vous dire? Que dans 2 mois, je serai majeur. Je commencerai par ouvrir cette porte, puis je liquiderai la maison. Mais pourquoi votre père est-il resté à l'étranger quand il pouvait reprendre ses affaires? Ben, il devait être mort. Mais vous disiez qu'au point de vue légal, il n'avait en partant aucune faute à se reprocher. Aucune. Mais pourquoi n'emmena-t-il pas votre mère? Je l'ignore. Et pourquoi cacha-t-il son adresse? Je l'ignore. Et pourquoi laissa-t-il mourir votre mère et pourquoi laissa-t-il enterrer sans revenir? Je l'ignore. Mon cher monsieur, si vous permettez que je vous parle avec la franchise d'un homme de métier, laissez-moi vous dire que très certainement, votre père avait la meilleure raison du monde pour ne pas entrer dans ce pays. Et que, si rien n'était prouvé contre lui, il craignait que quelque chose pût être, puisqu'il refusait de se mettre à la disposition de la loi. C'est l'évidence même. Comment sans cela expliquer les faits? Mon raisonnement ne fut pas du goût du jeune homme. Monsieur Alder, répliqua-t-il froidement, vous n'avez pas eu l'avantage de connaître mon père. Je n'étais qu'un enfant quand il nous quitta, mais il restera toujours pour moi un modèle. Il a eu d'autres torts qu'une délicatesse excessive et trop de désintéressement. Il avait un sentiment très aigu de l'honneur, et toute explication de son départ en contradiction avec ce fait est nécessairement fausse. Il me plut d'entendre ce garçon tenir un pareil langage, encore qu'il eût les apparences contre lui, et fut mal placé pour se faire de la situation une idée impartiale. « Je parle en homme qui juge du dehors, lui répondis-je. Mais j'habite loin. Il faut que je me retire. Votre histoire m'a tellement intéressé que je vous saurai gré de m'en faire connaître la suite. Laissez-moi votre carte, dit-il. Et m'ayant souhaité une bonne nuit, je le quittai. Je fus quelque temps sans entendre parler de l'affaire. J'arrivais presque à penser qu'elle resterait pour moi un de ces problèmes qui, échappant à la vérification directe, se réservent par espoir ou de soupçon, quand, un après-midi, une carte au nom de M. H. Perceval me fut remise dans mes bureaux d'Albertslen par un homme d'une cinquantaine d'années que le clerc venait d'introduire et qui était un individu petit, sec, avec des yeux brillants. « Je crois, monsieur, dit-il, que mon nom vous est connu par mon jeune ami, M. Félix Stanford. »« En effet, répondis-je, mon ami vous a parlé, autant que j'ai pu le comprendre, des circonstances qui amenèrent la disparition de mon ancien patron, M. Stanislas Stanford, et l'opposition d'un scellé sur une chambre de son ancien domicile. Oui, préparément. Et vous avez manifesté de l'intérêt pour cette affaire. Oh, un extrême intérêt. Vous savez que nous tenons de M. Stanford la permission d'ouvrir la chambre le jour où son fils aura 21 ans révolu. Oui, je me rappelle. C'est aujourd'hui que le jeune homme accomplit ses 20 ans. Et vous avez ouvert la porte, manquis je avec vivacité. Pas encore, monsieur, me répondit Perceval. J'ai lieu de croire qu'il vaudrait mieux que l'opération eût des témoins. Vous êtes homme de loi, au courant des faits. Pouvons-nous compter sur votre présence? Ça sans aucun doute. Vous avez vos journées prises, moi de même. Voulez-vous que nous nous retrouvions là-bas, ce soir à 9 h ? Avec plaisir. Nous vous attendons. Au revoir. » Il s'inclina cérémonieusement et sortit. En me rendant le soir à mon rendez-vous, je me travaillais en vain à imaginer une explication plausible du mystère que nous allions éclaircir. Mon jeune ami, avec M. Perceval, m'attendait dans sa chambre. Sa pâleur et sa nervosité n'étaient pas pour me surprendre. Mais ce qui m'étonna, suffit de trouver le sec petit homme dans un état d'exaltation qu'il dominait à peine. Il avait le sang aux joues, les mains fébriles, et ne tenait pas place. Stanford m'accueillit chaleureusement et remercia plusieurs fois d'être venu chez lui. « Et maintenant, Perceval, dit-il à son compagnon, je suppose qu'il n'y a pas aucun motif de tarder davantage. J'ai hâte d'en finir. » L'employé de banque, ayant pris la lampe, nous montra le chemin. Mais dans le corridor, il s'arrêta. Sa main tremblante faisait sur les grands murs, nus, danser la lumière. « Monsieur Stanford, dit-il d'une voix qui se brisait, j'espère que vous êtes armé contre toute émotion pour l'instant où le scellé sera brisé et la porte ouverte. Mais que pourrait-il y avoir là, Perceval ? Vous voulez me faire peur ? Non, monsieur Stanford, je veux simplement vous avertir d'être prêt, de ne pas vous laisser. » Il devait, entre chaque mot, humecter ses lèvres sèches. Et je me rendis compte, tout d'un coup, aussi nettement que s'il le lui dit, qu'il savait ce qu'il y avait derrière cette porte et que c'était quelque chose de terrible. « Voici les clés, monsieur Stamford. N'oubliez pas mon avertissement. » Il tenait un trousseau de clés. Le jeune homme s'en saisit avidement, puis, introduisant un couteau sous le scellé coloré, il rompit la cire. La lampe vacillait et crépitait aux mains de Perceval. Je la lui enlevai et l'approchai de la serrure, tandis que Stanford essayait successivement les clés. Il en eut une enfin qui tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit toute grande. Le jeune homme fit un pas dans la chambre et, poussant un cri horrible, il s'affaissa devant nous, inanimé. Si je n'avais pas pris au sérieux l'avis de Perceval, ne m'étais pas raidi contre la secousse, j'aurais certainement laissé choir la lampe. La chambre, sans fenêtre et nue, était aménagée en laboratoire de photographie, avec un évier et un robinet. Sur une étagère s'alignaient des fioles et des éprouvettes. Une odeur lourde, très particulière, moitié chimique, moitié animale, chargeait l'atmosphère. En face de nous, il y avait une table avec une chaise, et sur cette chaise, un homme était assis qui nous tournait le dos et semblait écrire. Comme silhouette, comme attitude, il offrait toutes les apparences de la vie. Mais au moment où la lumière tomba sur lui, je sentis se dresser mes cheveux en apercevant sa nuque livide, striée de plis et pas plus large que mon poignet. Une poussière le recouvrait. Une épaisse poussière jaune répandue sur sa tête, ses épaules, ses mains racornies, les couleurs de citron. Son manteau s'inclinait sur sa poitrine, sa plume reposait encore sur une feuille de papier. « Mon pauvre maître !» sanglota Perceval. « Mon pauvre maître !» Des larmes roulaient sur son visage. « Quoi » dis-je. « Monsieur Stanislas Stanford ? » Il était là depuis 7 ans. « Ah, mais pourquoi donc a-t-il fait cela ?» Je priais, je l'implorais, je me traînais à ses genoux. Il n'en voulut pas démordre. Voyez-vous la clé sur la table? Il s'était enfermé dans la chambre. Tenez, il a écrit quelque chose. Prenons-le. Oui, oui, prenons-le. Et pour l'amour de Dieu, ajoutai-je, sortons d'ici. L'air est du poison. Venez, Sanford, venez. Nous prîmes Sanford chacun par un bras, et moitié traînant, moitié le portant, nous le ramenâmes dans sa chambre. Mais c'était mon père, criait-il en revenant à lui. Il est là, mort, sur sa chaise. Vous saviez, Perceval, et c'était cela dont vous m'avertissiez. Oui, je le savais, monsieur Sanford. J'ai toujours agi pour le mieux. Mais quelle terrible situation que la mienne. Depuis 7 ans, 7 ans entiers, je sais que votre père est mort dans cette chambre. Et vous ne me l'avez jamais dit. Ne me blâmez pas, monsieur Stanford. Soyez indulgent pour un homme qui avait rempli, à remplir une bien cruelle tâche. La tête me tourne. Tu ne saisis pas? Péniblement, Stanford se souleva, cherchant la bouteille de brandy. Ces lettres de ma mère, à moi-même, elles étaient donc fausses? Non, monsieur Stanford. Votre père les écrivit de sa main et y mit l'adresse, puis il me chargea de le renvoyer. J'ai en toute chose suivi ponctuellement ses instructions. Il était mon maître, je lui obéis. Le bandit avait un peu raffermi les nerfs du jeune homme. Dites-moi tout à présent, je peux vous entendre. Eh bien, monsieur Stanford, vous savez qu'au moment donné, votre père eut un gros ennui. Il se figurait que de pauvres gens allaient perdre leurs économies par sa faute. Mais c'était un homme si bien qu'il ne put supporter cette idée. Elle le poursuivait, le torturait, au point qu'il résolut d'en finir avec la vie. Ah, monsieur Stanford, si vous saviez mes prières, mes luttes, vous ne me feriez pas de reproches. Il me pria, lui aussi, comme personne ne m'avait jamais prié. Sa décision était prise. Rien, disait-il, ne le ferait revenir là-dessus. Mais il dépendait de moi qu'il eût une mort facile et heureuse ou une fin misérable. J'eus dans ses yeux qu'il pensait ce qu'il disait, et je finis par céder à ses instances, par consentir à faire sa volonté. Ce qui l'attristait, c'était la mauvaise santé de sa femme. Il savait, par le premier médecin de Londres, que dans son état, elle pouvait succomber à la première émotion. Il répugnait à l'idée de hâter l'issue fatale, et pourtant sa propre existence lui devenait intolérable. Ne pouvait-il en finir sans préjudice pour elle? Vous savez à quoi il s'arrêta. Il écrivit la lettre qu'elle reçut. Il lui disait rien que de très sincère. Quand il parlait de la revoir très vite, il croyait qu'elle ne devrait pas tarder à le rejoindre et il lui accordait au plus un délai de quelques mois. Sa conviction à cet égard était telle qu'il ne laissa que deux ou trois lettres à lui envoyer quand il serait mort. Et comme elle vécut encore 5 ans, je me trouvai à court de lettres. Alors il m'en laissa une troisième à vous adresser pour le jour où vous prendriez votre mère, perdriez votre mère. Je les fis toutes expédier de Paris afin qu'on supposât qu'il résidait à l'étranger. Il avait demandé de ne rien dire, je n'ai rien dit. Je me suis conduit en fidèle serviteur. Sans doute pensait-il que 7 ans après sa mort aurait un peu regagné dans l'estime de ses amis survivants, car toujours il se préoccupait des autres. Il y eut un silence que rompit le jeune Sandford. Oh, je n'ai pas de reproche à vous faire, Perceval. Vous avez épargné à ma mère un coup dont elle serait morte. Qu'est-ce que ce papier ? Oh, c'est le dernier écrit de votre père, monsieur. Vous le lirai-je ? Faites. J'ai pris poison. Je sens déjà dans mes veines. Sensation étrange, mais pas douloureuse. Quand on lira ces lignes, je serai, si l'on respecte mon désir, mort depuis plusieurs années. Aucun de ceux qui auront perdu de l'argent par ma faute ne m'en gardera pas de rancune. Et vous, Félix, me pardonnerez ce scandale. Puisse Dieu accorder le repos à une âme lasse. Et d'une seule voix nous ajoutâmes, ainsi soit-il.